t'inquiète.
Il est là.
Radio Galère, il est 9h, bonjour à vous qui nous écoutez dans votre voiture, à la maison, dans les bouchons, en allant au travail, peu importe ce que vous faites, merci de nous écouter. Bienvenue dans la toute première de Coup de Projecteur, votre émission qui met la lumière sur un sujet d'actualité. Je suis Marceau et je suis très heureux d'être avec vous jusqu'à 10h. Aujourd'hui, lumière sur un sujet de santé publique, l'installation d'une salle de consommation de drogue, aussi appelée salle de shoot à Marseille. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, donc on attend vos appels au 04 91 08 28 10, je répète 04 91 08 28 10 pour réagir à l'émission et donner votre point de vue sur ce sujet. On vous attend très nombreux, on attend vos appels. Je suis avec Mohamed qui est là aussi. Mohamed, bienvenue dans l'émission, qui nous fera une petite chronique à la fin de l'émission sur le sport et sur la CAN. C'est ça Mohamed?
Oui, c'est ça. Et bonjour Marceau, ça fait plaisir d'être ici ce matin avec vous pour présenter cette chronique sport qui parlera notamment de la CAN, un peu sur l'actualité du sport et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bref, on fera un petit résumé juste à la fin de cette émission.
Très bien, bah écoute, merci Mohamed, on se donne rendez-vous à 9h45 à peu près pour ta chronique. On a très hâte de l'écouter, de la découvrir ensemble.
Merci Marceau.
Merci à tous de nous écouter pour la toute première de Coup de Projecteur, Radio Galère. Rappelez-nous au 04 91 08 28 10 pour réagir au sujet du jour. Coup de Projecteur, aujourd'hui lumière sur l'installation d'une HSA, voilà, une halte soins addiction, autrement appelée salle de shoot, qui doit s'installer à Marseille depuis des années. La question est toujours remise sur la table: où installer cette salle de consommation pour que les consommateurs de drogue, en particulier ceux qui utilisent des seringues, puissent consommer dans un lieu sain, plus propre que dans les rues et surtout à l'abri des regards. Donc une question d'hygiène, un projet porté par le Printemps Marseillais qui a fait de l'installation de cette salle de consommation l'une des priorités de leur mandat. Pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter le maire de Marseille, Benoît Payan, concernant ce projet. Il défend ce projet et il vous en dit un peu plus en quoi concerne l'installation de cette salle de shoot.
C'est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension. Moi, je ne veux pas laisser les toxicomanes dans la rue, parce qu'un toxicomane dans la rue, c'est un problème, c'est un danger pour lui et pour les autres. Pendant des années, on a fait comme s'il n'y avait pas de toxico dans la rue, de toxicomanes dans la rue, comme si on n'avait pas des problèmes de santé publique et de sécurité publique avec des gens qui s'injectent dans la rue. Ça n'est pas possible. Une halte soins addiction, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où, justement, on va les chercher, on les soigne et on leur permet de sortir de ce qu'ils font, aux abords des écoles, dans beaucoup d'endroits, dans bien trop d'endroits de la ville. Et pendant longtemps, on a fermé les yeux. On a des majorités qui ont fait comme si ça n'existait pas. Après, moi je suis dans une situation, je suis légitimiste et je suis républicain, qui est celle de n'importe quel républicain. J'attends le feu vert du gouvernement. J'attends qu'on me dise...
Et d'ailleurs, vous ne l'avez toujours pas. Alors peut-être que ça va vous sortir d'affaire, peut-être que le nouveau ministre de la Santé ne vous donnera pas l'agrément.
Et je l'ai toujours. Et je ne l'ai toujours pas. Quoi qu'il en soit, je souhaite que ça puisse exister. En milieu médical, en milieu clos, on verra bien.
Si vous souhaitez réagir aux propos du maire Benoît Payan concernant cette salle de shoot, on attend vos appels au 04 91 08 28 10. N'hésitez pas à nous appeler, voilà, si vous êtes d'accord, si vous êtes pour ou contre l'installation de cette salle de shoot. Voilà, cette salle de consommation qui devait s'installer au plein cœur de Marseille, au 110 boulevard de la Libération. Et ce projet-là avait provoqué de nombreuses contestations pour les opposants à ce projet. Voilà, cette salle n'avait rien à faire dans le centre-ville de Marseille pour les opposants. Je vous propose d'en écouter quelques-uns au micro.
Dire, et puis surtout, on ne les remet pas à la rue, on les soigne avant de les faire sortir, on les sève.
C'est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension. Moi, je ne veux pas...
Si on prenait les drogués, enfin ceux qui veulent se droguer, si on les prenait et qu'on ne les lâche pas, on ne les fasse pas retourner à la rue avec la drogue dans leur corps et dans leur tête surtout, mais qu'on les sève avant de les remettre à la rue, ce serait peut-être plus efficace.
Cette salle de shoot va nous amener à une poche d'insécurité supplémentaire sur Marseille. On en a également à Noailles, on en a aussi au boulevard du Capitaine Gèze. Donc on est là pour dire à la ville, ça suffit, stopper cette installation et cette ouverture de cette salle de shoot en plein cœur de Marseille. Il y a des hôpitaux, il y a des structures adaptées pour faire ce genre d'opération.
Ce n'est pas une solution dans les ministères, ça va se régler dans la rue, parce que les commerçants ici sont très très en colère.
Voilà, les opposants à ce projet de salle de consommation. Donc, si vous partagez le même avis que ces Marseillais, ou au contraire, si vous êtes pour l'installation d'une halle sans addiction, n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10. On vous prend à l'antenne et vous pouvez réagir par rapport à ce sujet. On débat avec vous. Mohamed, tiens, je t'invite à participer avec moi. Est-ce que tu étais au courant de ce projet ? Est-ce que tu sais un petit peu de quoi ça parle ou pas ?
Franchement, non, j'étais pas au courant de ce projet. Salle de shoot à Marseille, et c'est une première fois d'entendre de parler de ce projet. Et bien évidemment, c'est tout ce qu'ils vont réagir tout à l'heure, comme vous avez déjà donné le numéro Marceau, ils vont réagir tout à l'heure. Nous allons entendre les internautes, tout ce qu'ils vont essayer de nous expliquer, s'ils sont pour ou contre. Mais moi, je n'étais pas au courant de cette salle de shoot à Marseille, mais je pense bien que ça pourra régler quelque chose, parce que, comme le disait tout à l'heure le ministre, dire que voir cette salle de shoot à Marseille, il ne veut pas voir les toxicomanes dans la rue et tout. Et je pense bien qu'il faudra beaucoup, beaucoup revoir sur ces parties-là et essayer de vraiment redorer ce blason.
Voilà, c'est ça, c'est une vraie question de santé publique. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont besoin de consommer de la drogue ? Parce que pour certains, ils présentent ça comme un réel moyen médical, comme un réel médicament. Je sais qu'il y a des personnes qui s'injectent des drogues parce que ça les soulagerait, parce qu'ils sont malades et ils estiment que ça les soulage. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours la question de où est-ce qu'on s'injecte. On a toujours les seringues qui peuvent traîner dans la rue. Surtout que là, cette salle de shoot au 110 boulevard de la Libération, elle devait s'installer à proximité de 3 établissements scolaires. Donc, quelle image ça aurait donné pour les enfants de la ville de Marseille ? Voilà, c'est vrai que ce projet de salle de shoot, ça fait très longtemps qu'il est sur la table à Marseille. Déjà lors du précédent maire de Marseille, quand c'était Jean-Claude Gaudin, on en parlait déjà. Où l'installer ? Comment faire pour soigner ces gens ? On sait qu'à Paris, c'est déjà le cas. Il y en a déjà eu une à Paris de salle de shoot. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on l'installe ? On a entendu tout à l'heure un opposant qui a dit, voilà, justement, il y a des lieux pour faire ces salles de shoot. On peut très bien installer les gens dans les hôpitaux pour qu'ils puissent se soigner, parce que voilà, la drogue, c'est un problème de santé publique et c'est des gens qu'il faut soigner. Justement, la mairie de Marseille a décidé, pourquoi pas, d'installer cette salle de shoot à l'hôpital, parce qu'après une réunion publique, le ministère de la Santé a posé son veto. L'État a refusé de donner sa signature pour l'installation de cette salle de shoot au 110 boulevard de la Libération, justement pour sa proximité avec les écoles. Et donc maintenant, changement de plan pour la mairie de Marseille, on change de cap, on décide potentiellement d'installer cette salle dans les hôpitaux à Marseille. Donc est-ce que c'est le lieu idéal pour mettre un terme au débat ? N'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10 pour donner votre avis. 04 91 08 28 10. En attendant, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour écouter justement des Marseillais qui réagissent à l'idée d'installer cette salle de shoot dans les hôpitaux. On va s'écouter Téléphone, un autre monde. Allez, c'est parti, vous êtes bien sur Radio Galère. Vous êtes bien sur Radio Galère, 04 91 08 28 10 pour nous contacter. Vous êtes dans l'émission Coup de projecteur, l'émission, votre nouvelle émission qui met la lumière sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on parle de la HSA, Halte Soins Addiction, qui doit s'installer à Marseille, autrement appelée salle de shoot. Ça fait des années que le projet est sur la table. Où installer cette salle de shoot pour que les toxicomanes, les drogués puissent consommer dans un lieu plus sain, plus hygiénique et pour une question aussi de sécurité. Voilà, c'est la question qui se pose, qui est sur la table. On a écouté tout à l'heure les opposants à ce projet. On a écouté aussi le maire de Marseille qui défend ce projet, qui en a fait l'une de ses priorités. Alors, cette salle de shoot devait s'installer au 110 boulevard de la Libération, donc au plein cœur de Marseille, et à proximité de trois établissements scolaires. Ça a créé un véritable débat, il y a eu de nombreuses contestations, et finalement, le projet a donc décidé de changer de lieu. Voilà, c'est pas la mairie de Marseille qui a décidé de changer le lieu, tout simplement, le ministère de la Santé n'a pas souhaité donner sa signature pour autoriser l'installation de cette salle de consommation en plein cœur de Marseille. Donc, les plans ont été revus, et pourquoi pas l'installer dans les hôpitaux. Voilà, ça pourrait être un lieu qui calmerait un petit peu le débat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mohamed ? Est-ce que ça serait une bonne chose de faire cette salle de consommation dans les hôpitaux plutôt que dans un bâtiment en plein centre de Marseille ?
Ouais, pour moi, Marseille, c'est une ville qui est addicte et on voit qu'il y a beaucoup de consommation. Il y a beaucoup de toxicomanes ici à Marseille, dans les rues, on le voit. Pour moi, c'est une très, très bonne idée d'installer cette salle de soute dans les hôpitaux, n'est pas chercher un endroit comme en plein centre-ville de Marseille de chercher d'installer cette salle de soute. Je pense que ça donnera plus d'ampleur, mais il est crucial aussi de comprendre la nature de l'étendue de la toxicomanie chez chaque individu. Selon le type de toxicomane, des médicaments peuvent être prescrits pour aider à tenir les symptômes de sevrage et à réduire les envies. La thérapie individuelle et de groupe peut aider les toxicomanes à comprendre et à modifier aussi les pensées, les émotions et les comportements associés à leur dépendance. Le soutien de la famille, des amis et des groupes de soutien peut jouer un rôle crucial dans leur établissement. Les programmes résidentiels ou ambulatoires offrent un environnement structuré pour aider les toxicomanes à se rétablir. Pour moi, Marceau, c'est une très 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 belle idée d'installer cette salle de soute dans les hôpitaux à Marseille.
Si vous partagez le même avis que Mohamed, n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10. On prend vos appels, on vous fait passer à l'antenne. Je te propose, Mohamed, et je vous propose aussi, vous qui nous écoutez dans votre voiture, au travail, à la maison, peu importe ce que vous faites, merci de nous écouter. Et je vous propose justement d'entendre les Marseillais qui sont également divisés, hein. Voilà, à l'idée d'installer cette salle de consommation dans les hôpitaux. Ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Je vous laisse écouter les Marseillais.
Là, à l'hôpital, oui, mais installé dans un quartier, non. Absolument pas, je vous compte.
C'est peut-être mieux à l'hôpital que dans n'importe quel quartier, hein, parce que les médecins peuvent surveiller, mais ça n'arrange pas le problème. Hein.
Le problème, c'est quoi
c'est le trafic de drogue.
Je pense que les jeunes qui se shootent n'iront pas à l'hôpital pour la salle de shoot. C'est pas le lieu. Pour eux, l'hôpital, c'est un lieu de soins, c'est pas un lieu de vie. Une salle de shoot doit être différente d'un lieu de soins.
Voilà, les Marseillais qui s'exprimaient justement à l'idée d'installer cette salle de consommation dans les hôpitaux. Voilà, comme le rappelait le maire de Marseille tout à l'heure, c'est une véritable question de santé publique. C'est des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soignés, voilà, car dans la rue, ils sont un danger, comme le disait le maire de Marseille, ils sont un danger pour eux-mêmes, ils sont un danger pour les habitants, donc il faut trouver le lieu idéal pour qu'ils puissent consommer tout en ayant un accompagnement vers l'arrêt de consommation, parce que voilà, le but de ces salles de shoot, de ces salles de consommation aussi, c'est de les accompagner vers la sortie, de les accompagner vers un arrêt de leur consommation, parce qu'on le sait, voilà, la drogue, ben, c'est pas pour rien si ce n'est pas légal, hein, c'est que ça a beaucoup d'effets négatifs. Cette salle de shoot à Marseille, cette salle de consommation, cette halte soins addiction, je le rappelais tout à l'heure, devait s'installer à Marseille déjà depuis très longtemps. Ça n'a pas été le cas, parce que, comme vous le voyez, la question divise. La question divise entre où placer cette salle de shoot, cette salle de consommation. En général, c'est toujours le même problème qui revient sur la table. On est pour, mais pas à côté de chez nous. Voilà. Donc forcément, il faut trouver le lieu. Je vous propose un petit reportage dans quelques instants parce qu'il faut savoir que des salles de consommation, il y en a déjà en France. Il y en a à Strasbourg et à Paris. Et les expériences s'avèrent plutôt positives ou négatives. Comme d'habitude, il y a toujours du bien et du mal. Je vous laisse avec ce petit reportage. Reportage réalisé par nos confrères d'Allo Docteur qui vont nous dire justement, voilà, nous présenter comment cette salle de consommation s'est installée dans la capitale parisienne.
L'arrondissement de Paris, à quelques pas de la gare du Nord et de l'hôpital Lariboisière, se trouve la première salle de consommation à moindre risque ouverte en France. Derrière ce portail, à l'abri des regards.
Bonjour.
Bonjour.
5cc, bouteille d'eau, grande gamelle.
Yves est toxicomane depuis 25 ans. C'est un habitué de ce lieu, communément appelé la salle de shoot. Je
vais nager désinfectante.
Vas-y.
Allez.
Ça marche.
Aujourd'hui, il est venu consommer du Skénan, un puissant antalgique qui contient de la morphine.
Moi, je suis un usager Skénan qui consomme 2 fois 300 mg, qui s'achète au marché noir, car je n'ai pas de prescription. Le principe, c'est de visser ce qu'il y a dans ces fameuses gélules. Ils vont après être dilués et chauffés.
Le Skénan est le produit le plus consommé dans cette salle. Ce médicament antidouleur est normalement pris par voie orale, mais Yves le consomme autrement.
Alors moi, pourquoi je suis depuis autant d'années dans ce produit, déjà je suis hépatite C HIV. Hein, je ne m'en cache pas, mais voilà, je suis malade. En plus, j'ai un cancer. Mais ça me soulage. C'est des douleurs qui sont des fois très dures, quoi. S'il y avait une façon de pouvoir me calmer ces douleurs, ben j'arrêterais ce que je prends là.
Yves fait partie des 100 000 toxicomanes qui se piquent en France. Comme tous les usagers de la salle, il a le droit de venir ici pour s'injecter par voie intraveineuse sa propre drogue. L'injection permet des effets plus rapides et plus intenses. Mais c'est aussi le mode de consommation de drogue le plus dangereux pour la santé.
Qu'est-ce qu'il te faut ?
Un tampon d'alcool.
Un tampon d'alcool. C'est bon.
Cette salle a justement été créée pour réduire les risques sanitaires liés à l'injection, comme la transmission de virus, VIH, hépatite B et C. Du matériel stérile à usage unique est distribué gratuitement et le lavage des mains est obligatoire. Ce lieu rassure Yves.
Et s'il n'y avait pas de salle d'injection, ça serait dans la rue. Il n'y a plus ces précautions, il n'y a pas cette hygiène. Ah bon, quand j'en mets dans le métro, c'est dans le métro. Quand c'est dans la rue, c'est dans la rue.
Ça, c'est ça.
La salle peut accueillir 12 personnes en même temps. À leur côté, Fiona, une infirmière engagée. Règles d'hygiène, conseils de prévention, elle accompagne les usagers pour réduire les risques lors des injections.
Je fais ça.
Et si tu le dépiotes, ça
là,
marche plus.
Mains, tu...
Fiona recommande là, à cet usager, comme à tous les consommateurs de la salle, d'utiliser un outil de filtration efficace avant l'injection. Car des bactéries, des champignons et différentes substances peuvent passer dans le sang avec la drogue.
Ça, quand on l'injecte, en fait, le souci, c'est que le système veineux, il est fermé complètement, donc il n'y a aucun moyen de sortir ces produits, et donc il y a un moment où ça stagne et ça commence à boucher les veines. Donc c'est vraiment très important de filtrer pour limiter les infections, donc les abcès ou les poussières. Ça va être une infection qui va se répandre dans tout le corps très rapidement.
Des risques pour la santé bien connus des toxicomanes. Pourtant, ces messages de prévention ne sont pas toujours entendus.
Forcément, quelqu'un qui a toujours fait comme ça depuis des années, bah nous, quand on arrive avec un nouveau filtre, bah, ils n'ont pas forcément envie de changer leurs habitudes. Il faut vraiment essayer d'être pédagogue et leur proposer de tester. Réduction des risques, de toute façon, c'est ça. C'est la pratique est là et on essaye juste de donner des outils pour mieux consommer. Quoi. Mettre le garrot ? Ouais. Tiens, je t'ai juste posé ta pompe. Quel côté ? Non ? Je te le sers beaucoup ou pas beaucoup ?
Donner des conseils, poser un garrot, aider à trouver une veine, mettre un pansement.
Tu l'enlèves tout seul ? Ouais.
Dans cette salle, c'est le travail quotidien de cette infirmière. Mais sa mission est très encadrée. Fiona ne doit pas aider les usagers pour la préparation et l'injection du produit.
Concentre-toi sur ce que tu fais, mets ton masque. Allez.
Être infirmière ici, c'est prendre en charge un public marginal.
C'est bon, là, range ton matos. Allez.
Et faire preuve d'écoute et de patience.
Vas-y. Dans 5 minutes, tu t'en vas. Range ton matos.
Je pense que ça crée un lien vraiment particulier avec les usagers. Ils font confiance, ils font quelque chose d'intime, hein. Faire une injection ou même prendre une drogue, c'est une question intime. Si on le fait alors qu'on sait qu'il y a des soignants, enfin des gens bienveillants avec qui on va pouvoir travailler cette question-là, remettre en place des traitements, réadapter les choses, c'est toujours mieux que de le faire dans les toilettes, moi il me semble. C'est vrai que la salle, c'est pas seulement de permettre aux gens de consommer, ça va bien au-delà.
Après avoir consommé, les usagers peuvent se reposer dans la salle attenante. Assis dans cette pièce, cet après-midi-là, Pierre souhaite témoigner, mais il préfère rester anonyme. Morphine, crack, cocaïne, depuis 3 ans, il vient quotidiennement consommer de la drogue ici. Mais aujourd'hui, Pierre a décidé de mettre un terme à une décennie de toxicomanie.
Là, je viens de faire 2 semaines de cure et demain, je pars 2 mois dans une post-cure. Ou j'espère, j'en ferai une autre derrière si c'est pas assez, mais absolument tirer un trait là-dessus, quoi. Vous voyez, la démarche d'arrêter, c'est venu tout seul. J'ai commencé par ralentir petit à petit. Enfin, j'essaye d'être toujours clean sur moi. Je fais de la musique, je chante devant les gens. Donc je suis en train de m'en sortir.
Salut la compagnie, bon courage. Allez, et je vais plus voir vos têtes, vous allez voir ma tête pendant 2 mois. Je m'en vais demain en clinique. Allez, bon courage et merci à tous.
Pierre est déterminé à se sortir de l'addiction. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Une surprise, ce matin, Pierre est dans la salle. Il est venu consommer.
Je suis revenu parce qu'il y a.
C'est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension. Moi, je ne veux pas laisser les toxicomanes dans la rue.
Vous êtes bien sur Radio Galère, vous êtes dans Coup de Projecteur, la nouvelle émission, votre nouvelle émission qui met la lumière sur un sujet. Et aujourd'hui, nous parlons, comme vous venez de l'entendre, ce superbe reportage de nos confrères d'Allo Docteur sur la salle de consommation, l'Halte Soins Addiction, autrement appelée salle de shoot, qui doit s'installer à Marseille depuis des années. Une affaire qui fait beaucoup de bruit, voilà. Dès qu'on a annoncé la création de cette salle au 110 boulevard de la Libération, dans le 4e, qui était censé accueillir dans un cadre sécuriser les consommateurs de drogue et rapidement, qui a rapidement été rebaptisée salle de shoot, mais ça avait fait bondir les riverains, notamment les commerçants. Nombreux s'étaient opposés à l'installation de ce projet car il était à proximité des établissements scolaires. Et c'est toujours la même question qui revient sur la table lorsqu'on parle de l'installation de cette salle de shoot. Où est-ce qu'on la met ? On est pour, mais pas à côté de chez nous. C'est souvent, en général, ce que disent les Marseillais. On vient d'écouter donc ce reportage intéressant où on voit justement, voilà, c'est une véritable question de santé publique. Vous voyez, les consommateurs ne vont pas juste dans cette salle pour s'injecter du produit et ressortir. On voit qu'il y a un accompagnement, il y a du personnel soignant qui est présent, qui est là pour les accompagner, pour veiller à ce qu'ils consomment dans de bonnes conditions, qu'ils consomment dans des conditions hygiéniques et qu'ils ne prennent pas de danger, qu'ils ne prennent pas de risques en s'injectant ces produits, même si bien sûr, voilà, derrière, on sait qu'il y a toutes les conséquences qui peuvent en suivre, c'est-à-dire overdose ou mauvaise réaction. Mohamed, tu as préparé quelque chose un petit peu sur cette salle de consommation. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu as à nous dire après ce reportage ?
Oui, moi je pense très très bien que le suivi médical et thérapeutique à long terme est essentiel pour prévenir la réussite et maintenir la sobriété. Et bah du coup, quand vous dites ces toxicomanes vont pas rentrer dans ces salles-là, dire ils vont aller juste prendre de la drogue, ils sont bien accompagnés, il y a les personnels qui les accompagnent, il y a vraiment vraiment de ce qu'ils ont, ils ont besoin d'être encore plus suivis. Et moi je pense que c'est une très très belle initiative, c'est une très très bonne chose, parce qu'il ne faut pas voir les toxicomanes dans la rue être addict et accro à la drogue, dire encore il faut le laisser comme ça. Et bah, moi je crois c'est impossible pour un consommateur. Et pour moi, aujourd'hui, installer ces salles de shoot à Marseille, ça va régler beaucoup beaucoup de problèmes de ces toxicomanes, de ne pas leur voir abandonnés dans la rue, de ne pas leur voir traîner. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est le cas à Marseille, et Vous voyez très très bien, partez à la Canebière, partez en plein centre-ville de Marseille, vous voyez des toxicomanes, vous voyez tout cela, et je pense que ça ne donne pas envie vraiment d'être dans ce milieu-là, d'être dans ce monde de la toxicomanie. Et aujourd'hui, moi, je pense à très très bien installer cette salle de shoot, non seulement parce que tout à l'heure, nous avons écouté l'intervention, c'est qu'ils étaient pour et d'autres contre, et pour moi, dire qu'installer dans les hôpitaux cette salle de shoot ou en plein centre-ville de Marseille, Ça va envoyer beaucoup de questions. Il faudra se poser beaucoup de questions. Et pour moi, c'est encore quelque chose qu'il faudra revoir. Mais jusqu'à présent, vous avez dit tout à l'heure à Marceau que le maire encore n'a pas donné
son accord pour la mettre dans les hôpitaux.
Pour la mettre dans les hôpitaux ou en plein centre-ville de Marseille. Mais je pense que ça va envoyer beaucoup de débats, ça va envoyer beaucoup de questions. Mais pour le moment, il faudra encore essayer de voir comment prendre soin de ces toxicomanes, comment il faut essayer où et mettre en place cette salle de shoot en plein centre-ville de Marseille.
Oui, et puis surtout, il y a aussi la question de l'efficacité de cette salle de consommation qui revient sur la table. Parce que regarde, on vient d'écouter un reportage où à Paris, il y en a de nombreuses. Il y en a 3 ou 4, je crois, de salles de consommation à Paris, ou plutôt 2 ou 3. Oui. Mais voilà, je sais qu'ils en ont installé. Mais est-ce que c'est pour autant efficace? Est-ce que ça évite que les toxicomanes se retrouvent dans la rue? Eh bien, pour la petite anecdote, je suis monté à Paris le mois dernier et j'en ai vu. J'en ai vu, voilà, sur les stations de métro, je pense à la station de métro Stalingrad, voilà, j'ai vu quand même des toxicomanes dans les stations de métro, dans la rue, malgré l'installation de ces salles de consommation. Donc après, est-ce que les consommateurs, est-ce que les toxicomanes vont faire l'effort d'aller jusqu'à ces salles de consommation? Est-ce que le fait d'en installer une, ça réglera le problème? C'est aussi ça, il y a de multiples questions autour de ce sujet. N'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10, on attend vos appels si vous souhaitez vous exprimer par rapport à ce sujet, débattre, donner votre point de vue. Voilà, on va pourquoi pas s'écouter une deuxième partie du reportage, mais juste avant, je vous propose une petite pause musicale et culturelle, puisque le 14 février, un film est sorti sur Bob Marley, vous en avez peut-être déjà entendu, One Love. Tu connais un peu Bob Marley, Mohamed ?
Oui, Bob Marley, on a entendu l'histoire et tout, et moi je crois bien de fait d'avoir raté ce film au cinéma le 14 février. Et il fallait partir voir ce film, et je pense à la prochaine fois je prendrai très bien mon temps d'aller revoir ce film. Je connais très très bien Bob Marley et One Love et tout, et voilà, on sait que le 14 février c'était voilà un peu la fête des amoureux et tout, mais
eh ben c'était aussi la fête des amoureux du reggae, et je vous propose d'écouter Could You Be Love de Bob Marley.
Could you be love?
Vous êtes sur Radio Galère 88.4, merci de nous écouter. Vous êtes dans Coup de Projecteur, l'émission, votre nouvelle émission qui met la lumière sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on parlait de l'installation de cette salle de consommation halte soins addiction à Marseille. Un projet qui est sur la table depuis des années. On a écouté tout à l'heure le maire de Marseille, on a écouté les opposants, les partisans à ce parti. Et je vous propose justement d'écouter un petit peu pourquoi le lieu fait problème. Pourquoi le lieu fait problème? L'ancienne maire de secteur et conseillère municipale Sabine Bernasconi comprend qu'il faut une structure d'accueil pour les toxicomanes. Je parle de la maire de secteur du 4e, là où cette salle devait s'installer, mais pas près des habitants. Voilà, elle explique que c'est difficile de leur imposer une cohabitation avec des toxicomanes, difficile pour les parents de leur expliquer, d'expliquer à leurs enfants, parce que c'est vrai que voilà, si on l'installe dans un centre-ville, ben forcément c'est à la vue des habitants, c'est à la vue des riverains et c'est à la vue des enfants qui peuvent passer. Et c'est vrai, comment, quand les parents expliquer à son enfant ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de s'injecter une seringue dans le bras. Mohamed, est-ce que tu es prêt pour lancer ta chronique sport ?
Oui.
Oui, allez, une chronique réservée, une chronique spécialement sur cette canne qui vient de s'achever. On lance tout de suite le jingle et puis c'est à toi, Mohamed. La chronique sport de Mohamed sur Radio Galère, c'est parti, c'est à toi Mohamed.
Et voilà, bonjour et rebonjour, comme on était là tout à l'heure présent dans cette émission, vous êtes bel et bien sur la Radio Galère et nous allons parler un petit peu de cette chronique sport dans cette émission. Et voilà Marceau, nous avons fait un petit résumé sur la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en cette année 2024. C'est qu'il faut retenir de 30 jours complètement fous. Le rideau s'est baissé sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche 11 février avec la victoire magnifique des éléphants de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Une apothèse qui est venue boucler 30 jours de football, 30 jours de fête, de suspense et d'émotion. Pourquoi pas d'engouement et d'excitation, bilan d'une compétition.
Pardon Mohamed, priorité aux appels, je te coupe, puisqu'on a un appel. On a René qui est avec nous en direct.
C'est pas grave, ouais.
René, vous nous entendez René? René, allô? Ah, ben ça a coupé, René qui a essayé de nous joindre. René, si vous nous entendez René, n'hésitez pas à nous rappeler, je vous refais passer. Rappelez-nous de suite René. C'est bon Mohamed, tu peux reprendre et si René nous rappelle, je le fais passer.
Il n'y a pas de souci Marceau.
On reprend, pardon Mohamed.
Bien merci, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il faut retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations 30 jours complètement fous. Le rideau encore s'est baissé sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche 11 février avec la victoire magnifique des éléphants de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria. Les Super Eagles de Victor Osimhen, le joueur napolitain tenu en échec par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une hypothèse qui est venue boucler 30 jours de football, de fête, de suspense, d'émotion et pourquoi pas d'engouement et d'excitation. Le bilan d'une compétition qui restera dans l'histoire où la Côte d'Ivoire s'est taillée de la part de l'éléphant en finale face aux Super Eagles. La Côte d'Ivoire, une équipe marche qui a été repêchée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et
oui.
Quand on vous parle du football, c'est complètement fou. C'est pourquoi nous, on aime ce sport. Et attends, voilà.
Allez, René qui nous rappelle. Allô René ?
Oui.
Oui, vous êtes à l'antenne René, merci de nous avoir appelé, la parole est à vous.
Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui écoutent, aux auditrices et auditeurs. Moi je suis entièrement d'accord de ne pas mettre ce lieu de consommation à proximité des riverains, surtout pour les enfants. Ce n'est pas un spectacle agréable à voir, quelqu'un qui se shoote et quelqu'un qui est shooté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, ça devrait être mis à l'extérieur ou bien dans des lieux bien précis dans les hôpitaux.
Voilà, donc pour vous, René, installer ce lieu dans les hôpitaux, ça serait la solution.
Ah oui, ce serait la solution, ça l'isolerait, il n'y aurait pas ce spectacle, c'est pas boivant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Et oui, c'est sûr, c'est d'ailleurs le discours que tiennent les nombreux opposants à ce projet, mais après, certains disent, contestent justement, disent la salle de shoot dans les hôpitaux, c'est aussi pas le lieu, quoi. Dans les hôpitaux, on soigne...
Il crée des salles à l'extérieur, juxtaposées aux hôpitaux. Il y a bien de la place dans les hôpitaux pour faire ça. Une salle où il n'y a aucun contact avec personne, ce serait mieux, parce que c'est pas bon à voir. Vous avez déjà vu, je sais pas comment ils font. Hein.
Vous habitez où, vous, René? Vous êtes à Marseille. À Vitrolles, d'accord. Et donc, cette question d'installer une halle soindique...
Ça ne me concerne pas, pour l'instant.
Oui, ça ne vous concerne pas directement, mais bon, ça fait des années qu'elle est...
S'il y avait une consultation, si ça devait se faire à Vitrolles, mais moi, je m'opposerais.
Et oui, vous ferez partie des opposants.
Je m'y opposerais.
Donc, vous êtes plus de ceux qui pensent, voilà, il faut l'installer dans les hôpitaux.
Exactement.
Très bien. On vous comprend, René. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous écouter, René. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.
Merci à vous, René. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et merci à René qui nous a appelé, voilà, pour réagir par rapport à ce sujet. Oui, Mohamed.
Vous avez entendu tout à l'heure René qui dit que si ça se passait à Vitrolles, lui, il allait s'opposer.
Ah ouais, ouais.
Pour lui, installer cette salle de shoot en plein centre-ville de Marseille, là, il faudra beaucoup, beaucoup revoir. Parce qu'on voit aujourd'hui, sur la canabière, ça va envoyer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et pour René, c'est bien d'installer cette salle de shoot dans les hôpitaux encore. Parce qu'il faudra encore des suivis médicaux. Et pour lui, installer cette salle de shoot en plein centre-ville de Marseille n'est pas une belle image pour René.
Eh, c'est sûr, c'est un sujet qui divise beaucoup. Voilà. Merci encore à René de nous avoir appelé. Mohamed, on reprend la chronique.
Et voilà, nous sommes à la radio Galère et nous allons reprendre la chronique sport. Ici, la Côte d'Ivoire, comme on le disait tout à l'heure, Marseille ou la Côte d'Ivoire, une équipe repêchée dans cette Coupe d'Afrique des Nations grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie.
C'est fou, hein.
c'est fou, c'est complètement fou. C'est pourquoi nous, on aime ces sports, c'est pourquoi on est passionné du foot et tout. Marseille, vous avez vu la Côte d'Ivoire qui a joué 3 matchs dans ces phases de groupe. Le match joué face à la Guinée équatoriale, ce match perdu 4-0. Tout le monde voyait la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à terre après ce match perdu 4-0 qui était synonyme d'élimination directe pour la Côte d'Ivoire. Mais de vrai, la Côte d'Ivoire qui a attendu, qui a gardé patience jusqu'à la dernière journée, le Maroc qui a pu renverser la Zambie sur ce score d'un but à 0, qui a repêché la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations comme meilleur troisième et qui n'avait pas que 3 points seulement lors des 3 journées des phases de groupe. Le joueur ivoirien qui a manqué les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire à cause d'une blessure, c'était bel et bien Sébastien Allaire, le joueur qui évolue du côté de Borussia Dortmund. C'est Sébastien Allaire qui est passé de la galère à la réussite parce que lui qui était vraiment vraiment à un certain moment confronté à ce problème de cancer aux testicules. Et Sébastien Allaire aujourd'hui règne sur le toit de l'Afrique, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce beau parcours de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Marceau?
Ben c'est sûr que voilà, tu viens très bien de le présenter, Mohamed. C'est une équipe qui est revenue de loin. Effectivement. Ils ont plutôt bien commencé cette CAN avec une victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau. Et puis finalement, après, ben voilà, les éléphants n'ont pas été au rendez-vous.
Ouais,
défaite
ouais.
Face au Nigeria 1-0. Puis tu l'as rappelé, surtout 4-0 face à la Guinée équatoriale. On les voyait déjà dehors, comme tu as dit, ces Ivoiriens. Et puis ils sont revenus de loin. Ils sont revenus de loin, au mental, à l'envie.
Ouais.
Et ça a été une...
Avec
une...
la détermination et tout.
Ouais. Ouais, ça a été beau de les voir s'imposer dans cette CAN.
Et de voir encore Sébastien Allaire qui a été décisif en demi-finale en inscrivant le seul but de la rencontre face à la République démocratique du Congo de Chanchel Mbemba qui avait fait encore un très très beau parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Congo qui a joué la 3e place face au Bafana de l'Afrique du Sud. Mais malheureusement pour l'équipe de Chanchel Mbemba qui s'est inclinée dans ce match de 3e place face à l'Afrique du Sud. Et nous avons vu encore que beaucoup de joueurs qui ont laissé leurs empreintes dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il conclut sa CAN de la plus belle de manière en marquant le but qui offre la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. D'autres joueurs ont également marqué cette CAN de leurs empreintes. Le défenseur nigérien Ener Trostekong, si vous avez entendu parler de ce joueur nigérien Ener Trostekong, Marceau, le capitaine des Super Eagles qui a quand même fait un très très beau parcours avec cette équipe du Nigeria. Et nous avons vu le meilleur joueur de la compétition, l'Équateur guinéen Emilio Nsoué, le meilleur buteur avec 5 réalisations dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le gardien sud-africain Rowan Williams, qui évolue du côté de Mamelodi Sundowns dans le championnat sud-africain, qui a arrêté 4 pénaltys Marceau lors des séances de tir au but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce fameux gardien des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec 4 arrêts dans les séances de tir au but?
Ben, on sait que les gardiens, ça a un rôle primordial dans l'équipe. Hein. C'est pas celui qui marque les buts, mais c'est celui qui les arrête. Donc c'est un rôle primordial, et d'autant plus dans une compétition à élimination directe où on sait il y a les fameuses épreuves des tirs au but qui peuvent être amenées à n'importe quel moment dans la compétition. Et là, dans ce cas-là, bon, oui, il y a les tireurs qui ont un rôle à jouer, bien sûr. Mais bon, à un moment donné, soit il faut que le tireur loupe, soit il faut que le gardien la sorte.
Ah ouais.
Et là, ça a été vraiment impressionnant d'avoir un très beau gardien.
Catastrophique. Et pour moi, la CAF ne s'est pas trompée en désignant le gardien sud-africain comme le meilleur gardien du tournoi, ouais, de cette compétition. Le gardien sud-africain a été un pilier de la sélection des Bafana Bafana. Son exceptionnelle performance avec 4 arrêts sur 5 tirs au but en quart de finale face au Cap-Vert restera l'une des images de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est grâce à lui que l'Afrique du Sud a décroché sa 3e place dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce pénalty encore après ces 4 pénaltys arrêtés face au Cap-Vert en quart de finale. Et nous avons vu encore dans ce match de la 3e place les 2 pénaltys. Nous avons vu franchement pour le joueur Marseille Chancel Mbemba qui a arrêté ce pénalty et le joueur du Young Boys de Berne Meshak Elia encore qui a arrêté ce pénalty après 24 ans sans poser le pied sur un podium de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette équipe des Bafana Bafana qui quand même ont pu se retirer de cette Coupe d'Afrique des Nations avec la 3e place à Marceau après 24 ans pour cette équipe de l'Afrique du Sud qui n'avait pas posé son pied sur un podium de la Coupe d'Afrique des Nations et sortir meilleur 3e, tandis que nous avons vu des renversements de situation dans cette CAN. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui était tant attendu dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, le champion en titre, notamment éliminé par cette équipe de la Côte d'Ivoire, Marceau.
Eh oui, effectivement, le Sénégal qui faisait partie des favoris. Hein, beaucoup de gens voyaient le Sénégal s'imposer pour cette CAN. Et voilà, finalement, c'est la Côte d'Ivoire, les futurs gagnants de cette CAN qui se sont imposés.
Et nous avons vu aussi la Côte d'Ivoire qui est 3 fois champion d'Afrique, voilà, qui ont accroché leur 3e étoile dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. La Côte d'Ivoire qui avait réussi à remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1992, en 2015 et en cette année 2024.
J'étais pas né à cette époque.
Ah ouais. On n'était pas né à cette époque encore là. Et nous avons vu le Nigeria de Victor Osimhen. Marceau, vous connaissez très très bien ce joueur,
oui,
qui fait, voilà, très très talentueux, qui fait vraiment, vraiment un très, très beau parcours aujourd'hui à son image et au Nigeria et à Napoli. Et le Nigérien encore, Marceau, pour vous rappeler, qui sont 3 fois encore champions d'Afrique, voilà, en 1994 et 2013. Et cette année 2024, le Nigeria quand même a pu poser son pied encore en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais, ça a été une CAN, une belle surprise, ça a été.
Ouais. Et nous avons vu encore, comme je vous le disais tout à l'heure, Marceau, nous avons eu des surprises dans cette compétition.
Allez,
le fiasco du Maroc, le Maroc, la douche froide,
oui.
Franchement, le Maroc qui était tant attendu, demi-finaliste.
Ouais,
grosse déception pour les hommes de Walid Regragui, le Maroc qui était tant attendu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle, Marceau, Maroc demi-finaliste de la Coupe du Monde.
Moi, je les voyais s'imposer cette année, le Maroc.
Ouais.
Moi, c'était pour eux.
On s'y attendait vraiment, on s'y attendait. C'était le grand favori du tournoi. Mais le Maroc, demi-finaliste lors de la Coupe du Monde 2020 au Qatar, c'est piétusement fait sortir de la CAN en 8e de finale par l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, qui n'étaient pas là dans cette Coupe d'Afrique des Nations. À rigoler, les hommes de Walid Regragui ont eu tout faux dans cette compétition, surtout dans leur volonté de s'isoler du reste du monde. Hôtel privatisé, route fermée, barbelé sur la plage pour s'y couper de tout. Le Maroc a peut-être oublié qu'il est essentiel de se jouer sur le rectangle vert. D'abord, une victoire facile devant la Tanzanie en première journée. Et voilà, cette alerte face à la RDC de Chancel Mbemba, ce match nul et une petite formalité 1-0, comme on l'a dit, ce match gagné par le Maroc qui a fait rebondir cette équipe de la Côte d'Ivoire dans cette compétition pour qualifier la Côte d'Ivoire. On a certainement caché la réalité au Lion de la Trace après être monté si haut au niveau mondial. Marceau, qu'est-ce que vous avez pu retenir de l'équipe des Lions de l'Atlas dans cette Coupe d'Afrique des Nations, étant demi-finaliste d'une Coupe du Monde?
Bah, ça a été l'une des grosses déceptions. En fait, c'était une CAN qui a été pleine de surprises. Hein. Je pense que tu vas en parler tout à l'heure. On a aussi l'Algérie qui a même pas passé les poules. Ça, c'est quand même impressionnant. Et ouais, de nombreuses équipes aussi qui sont sorties en huitième, comme l'Égypte de Mohamed Salah aussi quand même. C'est censé être des équipes qui...
Une CAN de grosses surprises. Hein, ouais, Marceau, ouais. Et le tenant du titre encore, le Sénégal, qui est sorti et qui a été éliminé en huitième de finale encore par la Côte d'Ivoire, le pays hôte, et l'Algérie de Djamel Belmadi, de Riyad Mahrez. L'Algérie évincée, son sélectionneur Djamel Belmadi, le technicien, avait été nommé en août 2018, moins d'un an avant de remporter le titre continental en Égypte. L'Algérie qui a été champion d'Afrique en 2019 en Égypte avec cette sélection de Djamel Belmadi. On avait vu les Riyad Mahrez, les Bagdad Bounedjah, avec notamment Islam Slimani, beaucoup de grands joueurs dans cette sélection algérienne, mais était sous contrat jusqu'en 2026. Djamel Belmadi qui a été limogé de ses fonctions après cette déception, parce que nous vous rappelons encore qu'au Cameroun en 2021, c'était la même chose pour l'Algérie, et ils n'ont pas pu s'échapper de leur destin dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 aussi en Côte d'Ivoire, Marceau.
Grosse surprise, le départ de Belmadi. Enfin, surprise. Pas vraiment surprise, parce que c'est vrai que depuis ces derniers temps, les résultats de l'Algérie n'étaient plus présents. Ouais. Voilà, n'étaient plus présents. Donc, en général, quand une équipe va mal, on vire l'entraîneur et on espère que ça ira mieux. Ouais. On verra pour les prochaines étapes pour l'Algérie.
Et voilà, on vous dit beaucoup de joueurs de cette sélection algérienne qui pensent déjà prendre leur retraite, parce que si ça ne va pas, il faudra encore à un certain moment, il faudra dire au revoir à la sélection nationale, comme le gardien Raïs Mboli, le défenseur Aïssa Mandi, qui sont des hommes clés de cette sélection des Fenecs de l'Algérie. Sofiane Feghouli, Riyad Mahrez, et à bientôt 36 ans, l'attaquant Islam Slimani, qui ont tous quand même, qui sont tous prêts à dire au revoir à cette sélection algérienne après cette déception face à la Mauritanie en troisième journée. On pense vraiment que cette équipe de l'Algérie n'est pas l'Algérie qu'on a tant connue dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est trop compliqué pour le moment pour les Fenecs. Marceau, à revenir sur le continent. Et nous avons vu encore cette équipe du Nigeria en 18 participations, parce qu'il faut le rappeler, ils ont joué cette finale face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui termine 15 fois sur le podium du tournoi continental, un record. Le Nigeria est de plus en plus, en 1996, la première sélection africaine à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et Marceau, le Nigeria, la première sélection africaine à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose quand même de catastrophique. Et pour le Nigeria, on n'est pas surpris, bien évidemment, de voir le Nigeria jouer la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et le Nigeria a participé à 6 phases de finale de la Coupe du Monde. Et ils atteignent les 8e de finale, ainsi qu'en 2010, en 2010 et en 2018. Ils ne parviennent pas à sortir des phases de groupe. L'Égypte, qui est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Marceau, 7 titres. 7 fois champion d'Afrique, les pharaons d'Égypte. Et pour la première fois dans l'histoire de la CAF, un pays à savoir... qui est l'Égypte, a remporté 3 titres consécutifs, à savoir en 2006, en 2008 et en 2010. Notamment, après l'Égypte, nous avons le Cameroun du grand Samuel Eto'o, qui est 5 fois champion d'Afrique. Aussi le Ghana, qui est 4 fois champion d'Afrique. L'Algérie, qui est 2 fois champion d'Afrique. Et nous avons vu des équipes aussi comme le Maroc qui ont bel et bien s'illustrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ces équipes qui ont tous gagné la CAN. Et Marceau, c'est pour vous dire que c'est tout ce que nous avons pu retenir lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Et finalement, le Côte d'Ivoire, c'est un pari de la part de l'éléphant, parce que organiser la Coupe, ils ont dit que la Coupe restera à la maison. Et franchement, avec les surprises dans cette CAN, la Coupe est restée à la maison pour la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup Mohamed pour la chronique des sports. Merci à vous aussi de nous avoir suivis sur Radio Galère pour cette toute première de Coup de Projecteur, l'émission, votre émission qui met la lumière sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on parlait de la salle de consommation, on parlait de la halte soins addiction. Avant de se quitter quand même, on va parler de l'OM. Allez, on parle de l'OM parce qu'hier, on a eu un match de Coupe d'Europe quand même.
Oui, on parle de l'Olympique de Marseille. Marceau, cet hiver, l'Olympique de Marseille avait fait savoir que le renforcement du poste de latéral gauche, parce que le sujet Jonathan Clauss qui était prêt à être viré par la direction marseillaise, mais le club phocéen s'est montré plus actif que prévu, ainsi utile à l'arrivée de Ulysse Garcia, Quentin Merlin, Faris Mbanyama et Jean Onana ont débarqué sur la Canebrière. Ouais. Et voilà, vous voyez que l'OM qui a joué le match hier face au Shakhtar Donetsk, et comme nous voyons en ce moment la guerre en Ukraine, Shakhtar Donetsk qui a pu jouer ce match en Allemagne à Wolfsburg, et l'OM pas tenu en échec, mais c'était un match nul quand même de 2-0 pour les hommes de Gennaro Gattuso. Il fallait rebondir dans ce match, Marceau, parce que voir l'OM qui a avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a réussi à ouvrir le score à la 64e minute de jeu, et le Shakhtar Donetsk qui est revenu dans ce match à la 68e, 4 minutes seulement après avoir ouvert le score par l'attaquant gabonais Matvienko qui a égalisé à la 68e, et Illeman Ndiaye qui est entré en jeu à la 90e minute a marqué ce but qu'on y pensait vraiment en tant que Marseillais, que cette victoire elle était déjà acquise, mais à la 90e minute, Aguinaldo qui a marqué le but égalisateur, qui a fait très très mal aux Olympiens, parce qu'il fallait pas encaisser ce but. Marceau, pour vous, qu'est-ce que ça dit? Parce que si on voit ces derniers temps, l'OM qui perd beaucoup de matchs, et voilà ce match nul face à Metz, ce match perdu face à Lyon, et ce match encore perdu ces derniers matchs, ça va pas en championnat pour l'Olympique de Marseille, et surtout en Coupe d'Europe. Il faudra tout pour les hommes de Gennaro Gattuso le jeudi prochain ici à l'Orange Vélodrome d'essayer d'aller chercher une qualification possible pour jouer les prochains tours de cette Ligue Europa. Et pour vos Marceaux, aujourd'hui ces problèmes et tout ce qui amène, parce que franchement pour moi ça ne va pas dans cette équipe de l'Olympique de Marseille.
Ouais, c'est sûr que c'est la crise à l'OM, on en parle. Voilà, plus de Coupe de France, plus trop de championnats. Il reste plus que la Coupe d'Europe, donc on va attendre ces Marseillais au match retour au Vélodrome.
Oui. Un match nul, frustrant. Les deux bisons que c'est peuvent laisser des regrets aux côtés olympiens avant le match retour jeudi prochain à l'Orange Vélodrome. Et la plus grosse surprise dans ce match, c'est Domenico Balerdi, l'un des piliers de cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui sera absent Marceau dans ce match. On disait tout à l'heure le problème, Jonathan Clauss entre ombre et la lumière à la toute fin du mercato hivernal et tout proche d'être exfiltré par la direction. Clauss vit en début d'année 2024 mouvementé quand même, qui a pu dire hier, moi Jonathan Clauss, j'étais bel et bien présent pour cette équipe de l'OM, et on a vu cette passe décisive du français pour Aubameyang à la 64e minute pour l'ouverture du score. Et pour vous aujourd'hui, laissez Jonathan Clauss partir ou le garder dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce que bien évidemment on a vu les arrivées, on a vu les départs, le départ de Vitinha qui est parti à Genoa, le départ de Faris François Mungwe qui avait raté sa sélection pour avoir plus de temps de jouer à l'OM, qui est parti du côté de Dunkerque. Et aujourd'hui, pour vous Marceau, de voir cette équipe de l'OM qui est encore 8e du championnat de Ligue 1, et le dimanche il faudra tout faire pour aller gagner ce match à Brest au stade Francis Leblé. Et Brest, nous rappelons que Brest qui est 4e du championnat de Ligue 1, Marceau, l'OM qui faudra tout pour aller chercher cette victoire avant de recevoir le jeudi prochain le Shakhtar Donetsk à la maison ici à l'Orange Vélodrome.
Et ouais, deux grands matchs qui peuvent en dire très très long sur la fin de saison. Comme tu l'as dit Mohamed, le match à Brest pour rester dans la course à l'Europe en championnat, et le 8e de finale retour pour rester en Coupe d'Europe encore cette saison. Merci beaucoup Mohamed pour cette chronique sport et merci à vous encore de nous avoir suivis pour cette toute première de Coup de Projecteur. On se donne rendez-vous vendredi prochain, c'est-à-dire le 23 février, vendredi prochain, de 9h à 10h pour la deuxième émission de Coup de Projecteur. Merci de nous avoir écoutés, merci à René qui nous a appelés aussi.
Merci à René, ouais.
Merci à vous, on se donne rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h pour un deuxième épisode de Coup de Projecteur sur un nouveau sujet d'actualité. Très très belle journée sur Radio Galère 88.4. Tout de suite, vos programmes.
Et à bientôt.